La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernier moment de notre série consacrée à l'écrivain irlandais Oscar Wilde. C'est le portrait d'un homme libre que nous traçons depuis lundi dans la compagnie des auteurs, libre de penser comme il le souhaitait, d'écrire comme il l'entendait et de porter des tournesols dans les rues de Manhattan, de Londres ou de Paris quand cela lui chantait. Du dandy, nous avons parlé avec Daniel Salvatore Schiffer dans le panorama biographique en ouverture de cette semaine. Libre, il l'a été aussi au moment d'intenter un procès contre le père de son amant, procès qui va s'avérer désastreux et le conduire en prison pour homosexualité. C'est Charles Dantzig qui nous racontait cela mardi, en même temps qu'il évoquait l'exposition Wilde au Grand Palais à Paris. Libre enfin d'évincer le bien pour lui substituer le beau, ce n'est pas exactement permis par la morale protestante, mais qu'importe. De l'esthétisme, nous parlions hier avec Tsvetan Todorov, tandis qu'Anatole Tomczak venait nous raconter sa nouvelle traduction du portrait de Dorian Gray. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une émission en deux parties. Pour achever cette série, je recevrai en deuxième partie l'angliciste Pascal Akien de l'université Paris-Sorbonne. Il viendra lire et commenter des textes de son choix à l'occasion du lancement de son MOOC sur l'auteur irlandais. Mais nous commençons cette émission en parlant du théâtre. Alain Jumeau est mon invité, il est professeur émérite de littérature et de civilisation britannique du 19e siècle et il a préfacé pour les éditions Folio Gallimard la pièce « Un mari idéal » d'Oscar Wilde. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Je suis en ce moment la seule personne de quelque importance à Londres qui porte une fleur à la boutonnière. Oui, monseigneur, je l'ai remarqué. Voyez-vous, Phipps, la mode, c'est ce que l'on porte soi-même. Ce qui n'est pas à la mode, c'est ce que portent les autres. Oui, monseigneur. Tout comme la vulgarité est simplement la façon dont les autres se comportent. Oui, monseigneur. Tout comme les mensonges sont les vérités des autres. Oui, monseigneur. Les autres sont vraiment épouvantables. La seule compagnie acceptable, c'est soi-même.
Bonjour Alain Jumeau.
Bonjour.
C'était donc un extrait de la pièce « Un mari idéal » que vous avez préfacée. Nous allons en parler longuement aujourd'hui, mais avant cela, peut-être peut-on la mettre en comparaison avec l'autre grande pièce d'Oscar Wilde, « L'importance d'être constant ». Les deux vous semblent-elles liées d'une manière ou d'une autre? On sait qu'elles ont été données en même temps à Londres.
Oui, effectivement, c'est le lien principal. Il a écrit quatre comédies légères et il se trouve que les deux dernières, qui sont peut-être les plus intéressantes, ont été lancées en même temps. La première du mari idéal correspond au début de l'année 1895, le 3 janvier, si j'ai bonne mémoire. Quant à l'importance d'être constant, il faut attendre juste quelques semaines de plus pour assister à la première. Elle a lieu, ça c'est facile à retenir, le 14 février 95, jour de la Saint-Valentin, ce qui n'est pas tout à fait un hasard. Et alors il faut se rendre compte qu'il y a un concours de circonstances extraordinaire. Vous avez un auteur à succès qui a la chance d'avoir deux pièces jouées simultanément dans des grands théâtres du West End londonien. À ma connaissance, il y a très très peu d'auteurs qui ont réussi cet exploit, mais Wilde étant un homme de théâtre particulièrement brillant, a réussi à avoir ces deux pièces simultanément.
Mais elles sont assez distinctes, ces deux pièces. Est-ce que vous pensez que quand on allait voir du théâtre à cette époque-là à Londres, on allait voir les deux, ou finalement il y avait un public un petit peu différent pour l'une et pour l'autre?
Je suppose que les gens qui sont allés voir la première des deux, c'est-à-dire Un mari idéal, ont été conquis. La réputation de Wilde était déjà faite. Et ils ont, pour un certain nombre, eu l'idée d'aller voir l'autre pièce pour faire des comparaisons, s'apercevoir si c'était toujours leur Wilde préféré. Et ils n'ont pas été déçus parce que la deuxième est très bonne aussi.
Alors, Un mari idéal, c'est une pièce assez politique, en fin de compte, mais où on trouve le même jeu de l'esprit, le même goût du paradoxe et la même fantaisie comique qui caractérise partout ailleurs la littérature d'Oscar Wilde. Diriez-vous que c'est avant tout une pièce comique ou avant tout une pièce un peu politique ?
Alors, justement, ce qui fait la différence par rapport à l'autre pièce, Constant, c'est que vous avez beaucoup de jeux, beaucoup de liberté, beaucoup de comédie, un festival verbal, mais vous avez une dimension politique qui ne peut pas échapper. Et je dois dire que c'est quelque chose d'unique dans le théâtre, la comédie légère de Wilde. C'est la seule pièce qui est justement des références à une actualité scandaleuse, une actualité politique scandaleuse. Et on pourrait imaginer qu'il y a là matière à une pièce à la manière de George Bernard Shaw, qui lui s'attaquait à des sujets sérieux, critique sociale.
Donc vous pensez que là, Wilde, en développant le thème du scandale politique et financier autour des affaires des différents canaux qui sont creusés à ce moment-là, canal de Panama, canal oui. de Suez, une question de délit d'initié aussi qui est oui. au cœur de cette pièce, vous pensez que là, Wilde engageait une veine plus sérieuse qui peut-être a été bloqué par le fait qu'il a été emprisonné cette même année.
Bon, je crois qu'on peut faire abstraction quand on lit la pièce pour la première fois ou qu'on la voit représentée. Je crois qu'il faut faire abstraction de ce qui a suivi dans la biographie. On prend la pièce telle qu'elle et on s'aperçoit qu'il y a cette dimension politique très très nette à la chose, donc je répète. Mais en fait, ce qui triomphe, c'est la comédie, c'est la légèreté. J'ai l'impression que c'est une pièce où il s'amuse, il nous amuse, mais il s'amuse le premier. Et c'est comme s'il nous disait, je pourrais faire une pièce qui ait cette dimension, qui ait cette direction. J'ai tous les ingrédients, je vais les faire jouer. Mais en fait, ça n'a qu'un temps dans l'intrigue. Et très vite, triomphe le jeu verbal, le feu d'artifice des paradoxes, l'esprit, l'humour, et on s'aperçoit qu'on est vraiment dans la comédie, et la dimension sérieuse est là, mais elle est occultée.
Oui, mais c'est une comédie qui est une comédie satirique, c'est Tout une à comédie fait. Qui est tournée contre une certaine forme d'hypocrisie anglaise et française aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui représentent l'affairisme français aussi dans cette pièce-là.
Tout à fait. J'ai l'impression que il est parti en guerre, là encore, parce qu'on retrouve ça dans plusieurs de ses œuvres, on va le retrouver dans la dernière comédie, il est parti en guerre contre la morale victorienne, contre l'hypocrisie victorienne. Il s'attaque ici tout particulièrement au fait qu'un homme politique brillant, promis une très très belle carrière, et qui n'a que 40 ans, qui a très bien réussi, qui est très riche, qui a une femme charmante, qui l'adore, qui le considère comme un mari idéal, cet homme, en fait, a un passé trouble.
Pour y arriver, il a dû se compromettre,
tout à fait. Et c'est ce que la pièce, tout à fait satirique, vous l'avez dit, s'efforce de démontrer. Mais en même temps, on n'en reste pas tout à fait là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette dimension satirique rejoint un certain nombre de d'œuvres littéraires de l'époque.
Comme par exemple, Shaw encore.
Shaw, si vous voulez, bien sûr. Alors, moi, personnellement, étant donné que je m'intéresse aux romanciers victoriens, et notamment à un certain Anthony Trollope, qui a écrit 47 romans, assez brillants souvent, son chef-d'œuvre, peut-être, c'est Quelle époque, qui est une satire en règle contre le culte de l'argent. La corruption.
La finance.
La finance. Dans ce roman, vous avez quelque chose d'assez comparable. C'est un roman qui précède de 20 ans. Il a été publié en 75. Dans ce roman, vous avez des personnages qui s'affairent dans une compagnie ferroviaire en Amérique pour construire un chemin de fer allant au Mexique. Ça ne tient pas, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a que des montagnes sur le chemin. Simplement, derrière, il y a une entreprise financière avec un personnage de banquier véreux qui vient d'Europe centrale. Bon. Et il m'a semblé qu'on retrouvait un petit peu de cela dans ce fameux canal argentin qui ne peut pas exister.
Mais il y a peut-être aussi un petit peu d'auto-ironie parce que la manière dont il se moque de la bonne société aussi, c'est ça, hein, de la conversation aussi dans les salons, dans les cocktails, c'est au fond la société quand même qu'il fréquente, Oscar Wilde. Donc on a du mal à savoir exactement où l'auteur se place par rapport à ses personnages, à la fois il les juge et puis à la fois il est proche d'eux.
Non seulement il est proche d'eux, mais il s'est efforcé pendant sa carrière mondaine à Londres, de fréquenter la meilleure société. Donc, lorsqu'il s'attaque à ces gens-là, il s'attaque au monde dans lequel il vit.
Oui. Alors, quand il fait dire à Robert Chiltern, donc l'homme politique très lancé, qui a 40 ans, « Tôt ou tard, dans la vie politique, il faut faire des compromis, tout le monde en fait », il dit ça à sa femme. Est-ce que vous croyez que Oscar Wilde, qui lui n'aura finalement pas fait de compromis dans sa vie, ou assez peu, est-ce que vous croyez qu'il le juge, ou est-ce que vous croyez que, quand même, il comprend cette idée qu'il faut faire des compromis, et que d'une certaine manière, il y adhère, puisque lui-même fait partie de ce monde où on fait des compromis ?
Tout à fait. Non, je pense que là, il utilise le langage réaliste. Pas de vie sans compromis, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, tout en fustigeant cette société qui est en grande partie corrompue, il y appartient, mais il reste à l'extérieur. C'est sa position étrange, singulière, d'Irlandais à Londres.
Eh bien, monsieur, que faites-vous ici ? Vous gaspillez votre vie comme d'habitude. Vous devriez être au lit, monsieur. Vous vous couchez trop tard. J'ai entendu dire que l'autre nuit, chez Lady Rufford, vous avez dansé jusqu'à 4 heures du matin. Seulement jusqu'à 4 heures moins le quart, mon père. Je ne comprends pas comment vous supportez la bonne société londonienne. Elle court totalement à sa ruine. Ce n'est plus qu'une foule de rien du tout qui ne parle de rien. J'adore parler de rien, père. C'est le seul domaine où je connais un peu quelque chose. Vous me paraissez vivre entièrement pour le plaisir. Pourquoi d'autre peut-on vivre, père ? Rien ne fait plus vieillir que le bonheur. Vous êtes sans cœur, monsieur, tout à fait sans cœur. Oh, j'espère que non, mon père.
Un extrait donc d'Un mari idéal, lu et interprété par Guillaume Gallienne, qui vous fait rire, Alain Jumeau, il faut insister là-dessus. Tout est dit chez Wilde sur le mode de l'humour.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela qu'il a un tel succès dans son pays, dans les pays de langue anglaise en général, et aussi chez nous, parce que sa pièce a connu un très très beau succès. Elle est peut-être moins jouée que la dernière, L'importance d'être constant. Je me suis laissé dire par un spécialiste du théâtre à Londres que c'était la pièce la plus jouée du répertoire et la pièce surtout la plus vendue au public.
C'est-à-dire qu'elle peut être à la fois jouée dans les théâtres privés et dans les théâtres publics, pour reprendre cette distinction un petit peu artificielle.
Oui, vous avez tout à fait raison, mais je crois que ça va encore plus loin, parce qu'en Angleterre, on joue la pièce littéralement partout, y compris dans les patronages, quand on initie les jeunes à la comédie. Pourquoi ne pas prendre quelques très belles scènes du théâtre de Wilde ?
Alors, il faut dire qu'il y a des personnages assez extraordinaires, et notamment le personnage de Mrs. Chevelet, qui est une femme qui est une roturière dans ce monde d'aristocrates, mais qui néanmoins va se permettre de faire chanter le baron Sir Robert Chiltern, puis ensuite le vicomte de Goring. Qu'est-ce qu'elle représente, cette personnage de femme pour vous, dans la pièce Alain Jumeau?
Alors, si on se place du point de vue de la représentation théâtrale, je pense que l'actrice qui incarne le personnage de Mrs. Chevalley est vraiment le pivot de la pièce. Ça n'est pas un hasard si, lorsque vous regardez la distribution de grandes représentations ou les adaptations au cinéma, vous trouvez toujours de très grandes actrices. En France, lorsque la pièce a été jouée 2 ans de suite, c'est Annie Dupéret qui a incarné le personnage. Bon. Il faut savoir que la pièce a été très très bien reçue, a obtenu des Oscars, et Annie Dupéret, la première, hein, pour son personnage féminin inoubliable. Que représente-t-elle maintenant à l'intérieur de la pièce?
Et pourquoi est-elle si importante?
Et pourquoi est-elle? Oui.
Faut que ce soit de grandes actrices qui l'incarnent.
Oui, absolument. Parce que c'est un personnage à part, c'est un personnage qui vient de l'ailleurs, et d'un ailleurs douteux, trouble. Je vous rappelle qu'elle a été mariée 2 fois, sans compter les aventures multiples.
Et là, il peut y avoir une forme d'identification de Wilde, qui aime bien les personnages troubles.
Tout à fait. Elle est ce que le mélodrame victorien appelle la femme avec un passé. Or, il se trouve que Wilde fait encore plus fort dans cette pièce, puisqu'il nous donne une femme ayant un passé, mais aussi un homme ayant un passé. Et la première fait chanter le second. C'est assez habile. Hein,
c'est toujours sur le passé qu'on fait
forcément
chanter les
forcément.
Gens. Autre chose peut-être avec ce personnage de Mrs. Chevalley, c'est que c'est une femme. Et cette femme, elle a du pouvoir sur des hommes qui sont des hommes très puissants.
Tout à fait. Il faut voir qu'au départ, elle est roturière. Et elle s'attaque à du très gros gibier. Elle s'attaque à l'aristocratie. Elle s'attaque à des gens très riches. Elle a été la maîtresse du baron Arnheim, un spéculateur autrichien. C'est d'ailleurs le lien qui l'a conduit ensuite au chantage et à sa victime de Sir Robert Chiltern.
Oui, qui est un personnage assez peu recommandable d'ailleurs, car c'est lui qui va faire que Robert Chiltern va au fond faire ce délit d'initié. C'est sur son... une introduction finalement qu'il va briser finalement son intégrité et c'est oui. En brisant cette intégrité qu'il va évidemment monter dans l'échelle de la société.
Oui, exact. Donc pour en revenir à cette femme, Mrs. Chevalley, elle représente très clairement une menace pour les personnages de la pièce, mais plus généralement une menace sociale. Vous avez un ordre patriarcal qui est représenté par Lord Caversham, qui est quelqu'un qui porte la jarretière. C'est quand même quelqu'un tout à fait distingué dans l'aristocratie anglaise. Il se trouve que Mrs. Chevalley attaque ce pouvoir patriarcal et elle représente une véritable menace.
Oui. Alors, il y a une autre femme qui est intéressante aussi dans la pièce, c'est évidemment la femme de Sir Robert Chiltern, parce que elle, pour le coup, elle est une représentante de la droiture.
Tout à fait, et elle reconnaît à la fin, dans ces moments d'ouverture, de prise de conscience, elle reconnaît qu'elle s'est trompée en plaçant son mari sur un piédestal.
Parce qu'elle ne peut pas imaginer que son mari ait fait quoi que ce soit de répréhensible pour arriver là où il est.
Absolument, absolument. Et dans la mesure où elle découvre qu'elle-même n'est pas irréprochable, parce qu'elle a envoyé ce billet compromettant sur du papier rose à son ami Lord Goring. Elle n'est pas allée au rendez-vous qu'elle avait fixé, mais elle en avait l'intention. Dans la mesure où elle prend conscience qu'elle-même s'est conduite de manière un peu irréfléchie. Elle se dit que l'appel de son mari au compromis a du sens.
Donc c'est une leçon de vie alors.
C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie parce que au départ, on peut imaginer que elle représente une morale rigide qui n'accepte pas la faute. Et puis dans la mesure où elle-même se sent un petit peu fragile vers la fin, elle en arrive à accepter et donc transiger.
Nous parlons du théâtre de Wilde avec Alain Jumeau dans la compagnie des auteurs et singulièrement d'une pièce en particulier, Un mari idéal. On a parlé de certains personnages, Alain Jumeau, mais peut-être que le personnage le plus important, c'est le langage. De Wilde.
Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. C'est ce qui triomphe dans la pièce. Et c'est ce qui triomphe dans les autres pièces de Wilde et qui va encore triompher dans la dernière. Hein. Bon, je dirais que dans le théâtre, Wilde trouve un moyen d'expression qui est vraiment fait pour lui. Il avait imaginé une carrière littéraire complète. La poésie, il a d'ailleurs commencé par là. La fiction, c'est lui l'auteur d'un très grand roman. Et puis le théâtre, il y est arrivé petit à petit avec des pièces qui n'ont pas eu de succès au début, avant qu'il découvre la comédie légère. Et là, il était vraiment dans son élément et il pouvait reprendre tout ce qui avait fait sa célébrité mondaine, c'est-à-dire les mots d'esprit, les paradoxes. Et cela triomphe dans la pièce.
Et vous allez même plus loin, Alain Jumeau, parce que le langage vous semble tellement important chez Wilde que vous ne vous concentrez que sur l'analyse du langage pour en conclure que c'est presque un théâtre de l'absurde. Que nous propose Oscar Wilde.
J'espère ne pas faire d'équation trop brutale dans mes propos. Disons que c'est un théâtre qui tend vers cela. Il faut quand même se rappeler que nous sommes encore à la fin du 19e siècle.
Justement, c'est là où ça en fait un visionnaire.
Mais il voit plus loin. Et je crois que souvent, il annonce un autre Irlandais, comme par hasard, Beckett. Son théâtre de l'absurde, ça triomphe dans l'importance d'être constant.
Oui, à quoi vous le voyez, ce théâtre de l'absurde? En quoi est-ce qu'il émerge déjà dans les pièces de Wilde?
Dans la mesure où les personnages, par exemple, prennent au sérieux les paradoxes. Vous avez un dialogue qui a été lu tout à l'heure avec le père et le fils à propos des paradoxes. Ce dialogue se poursuit d'ailleurs, ça va très très loin. Le paradoxe, c'est le plaisir de Wilde. C'est une manière de mettre les choses à l'envers. Et il y a des échos dans le texte même. Vous avez ce personnage qui est tout à fait savoureux de la jeune fille sentimentale et amoureuse, Mabel Chiltern, la sœur de Lord Chiltern. Elle s'amuse à un moment. Elle dit qu'elle est pressée, elle doit se rendre à quelque chose de très très important, et on découvre que c'est futile, elle va préparer des tableaux vivants, c'est-à-dire des charades où elle se met en scène. On retrouve l'idée de théâtre. Bon. Et puis, elle explique que dans ce tableau vivant, elle doit jouer un rôle où elle fait le poirier. Pour une jeune fille victorienne, c'est un peu inattendu, il faut le dire. Bon. Mais faire le poirier, c'est voir le monde à l'envers. Et c'est nous préparer à entrer dans un monde qui n'est pas notre monde tout à fait. On retrouve notre monde, mais on le voit différemment. Et ça, c'est très amusant.
Et puis, c'est un jeu peut-être aussi, Alain Jumeau, avec l'intrigue elle-même. Wilde n'a pas peur, par exemple, de tourner le dos à la vraisemblance, de montrer sur scène l'invraisemblable, sans que ça choque particulièrement.
Oui, oui. Et en cela, je crois qu'il est, encore une fois, très moderne.
Là aussi, vous avez un exemple, peut-être ?
Oh, il y en a beaucoup, mais je vais en choisir un. C'est les accessoires. Il y a l'accessoire qui va confondre Mrs. Chevelley. Elle a volé par le passé. Elle a volé un bijou très très précieux. Et il se trouve qu'elle l'a perdu, elle vient le rechercher, et ce bijou tombe entre les mains de Lord Goring. L'attrapeur est attrapé, l'arroseur est arrosé, et c'est Lord Goring qui va se servir de ce bijou pour confondre Mrs. Chevelley et lui montrer qu'elle est une voleuse, que tout le monde le sait. Et ce bijou, qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. C'est théoriquement une broche, mais c'est aussi un bracelet. Vous imaginez? Une broche bracelet, c'est un peu difficile à concevoir. Bon, et se trouve que ce bracelet lui emprisonne le poignet, joue le rôle de menotte. Alors il est évident que Wilde se moque des accessoires et nous invite à nous en moquer. Et d'autre part, il y a la fameuse scène qui est admirable, qui a évidemment des correspondances chez nous dans le théâtre de Feydeau. C'est une véritable horlogerie scénique où vous avez des personnages qui sortent d'une pièce, qui rentrent dans l'autre, etc. Et nous ne sommes pas obligés d'y croire.
Dernière chose, elle a un jumeau qui jette peut-être une ombre sur cette pièce. C'est la façon dont le dandy, le personnage du dandy, est au fond quelqu'un d'assez conformiste. Et notamment quand il dit que la vie d'un homme a plus de valeur que la vie d'une femme. Comment vous comprenez que Oscar Wilde puisse dire une chose pareille, ou alors le faire dire à ses personnages? Il ne faut évidemment pas confondre l'auteur et ses personnages, mais on le sent assez proche du personnage qui a cette réplique-là en particulier, dont le nom m'échappe tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais c'est tout à fait exact. C'est fâcheux d'entendre un tel discours machiste de la part de quelqu'un qui avait du respect pour les femmes et une certaine compréhension pour le féminisme.
Et qui dit dans la même pièce que les femmes, justement, s'émancipent, luttent contre le patriarcat. Alors c'est un peu bizarre, peut-être qu'on la comprend mal aussi, cette réplique-là.
Alors, c'est possible. Mais il y aurait une autre explication qui nous est fournie par un critique, certain Norbert Kohl, qui prétend que Wilde est un rebelle conformiste.
Oui, c'est ça.
Une sorte de paradoxe, là encore. Hein.
C'est quoi un rebelle conformiste?
C'est un oxymore.
On peut être les deux à la fois.
Si je puis employer un terme pédant. C'est un oxymore, ça n'existe pas. Mais lui réussit à faire cette fusion des contraires dans son attitude.
Alain Jumeau, vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons accueillir Pascal Akin de l'Université Paris-Sorbonne, auteur du premier MOOC francophone sur Oscar Wilde, qui sera justement lancé dès ce soir à 19h30 à l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, avec la lecture de textes de Wilde par Daniel Mesguich. Et c'est donc en avant-première que Pascal Akin va venir lire et commenter un certain nombre de textes de l'écrivain irlandais.